merci d'écouter RFI. Les 9h30 à Paris, 7h30 à Abidjan. Et tout de suite, c'est le journal d'Edouard Dupénoit.
Et l'Algérie à la une de cette édition avec l'expulsion programmée de 12 agents français. Réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants, dont un agent consulaire algérien dans une affaire d'enlèvement et de séquestration. Et nouvel accro dans une relation qui semblait pourtant revenir à de meilleurs sentiments. 2 ans révolus de guerre au Soudan, conflit toujours aussi sanglant qui a poussé déjà des millions de personnes sur les routes. Conférence internationale à Londres. Aujourd'hui, nous sommes à Adré dans quelques minutes. Principal point d'entrée vers le Tchad, aux frontières de l'Ouest. L'enlèvement d'une ressortissante suisso-nigérienne avant-hier soir à Agadez. Pas de revendication à ce stade. Au Sénégal, Ousmane Sonko face aux députés, pas tout à fait en plénière. Les 3/4 des élus de l'opposition ont boycotté cette séance de questions-réponses avec le chef du gouvernement. Et puis au Bénin, 2 ans de prison requis contre Steve Amoussou. Aux yeux du procureur de la Criette, il ne fait aucun doute que lui et frère Unvi ne sont qu'une seule et même personne. Frère Unvi, cet avatar numérique, auteur de virulentes critiques contre le président Talon. L'Algérie assume donc une décision souveraine dans l'expulsion annoncée de 12 fonctionnaires français, 12 agents qui ont reçu l'ordre de quitter le pays dans les 48 heures. Réponse à cette mise en examen en France, vendredi, de 3 hommes, dont un employé consulaire algérien. 3 individus suspectés notamment d'avoir enlevé et séquestré un opposant politique. Et donc cette réponse, assumée comme telle par Alger, elle semble raviver également la tension que le coup de fil entre les 2 chefs d'État, puis la visite du ministre français Jean-Noël Barrot, semblait avoir éteinte. Le chercheur Hasni Abidi n'est pas aussi définitif dans son analyse. Il y voit d'abord une réponse classique de la diplomatie algérienne.
Au-delà de la nature de la réponse algérienne, cette dernière, elle fait partie de l'ADN de la diplomatie algérienne qui n'a jamais supporté le fait de subir le fait accompli de la part des autorités françaises et notamment du ministère de l'Intérieur. L'Algérie a toujours brillé en matière de réciprocité et la sanction régulièrement dépasse la réponse à une action. Les Algériens s'interrogent, bien sûr, pourquoi finalement cette affaire a attendu 1 an. On est vraiment dans une affaire très grave. Et on sait que la police judiciaire, donc, qui a entamé cette arrestation, dépend plutôt du ministère de l'Intérieur. L'issue de cette nouvelle dégradation dépend de la réponse plutôt du ministère des Affaires étrangères des 2 États et aussi de la réaction des 2 présidents de la République.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, avec Lisa Fabian. J'ajoute que Jean-Noël Barrot était invité ce matin sur la chaîne France 2. Il parle de ces expulsions comme d'une décision regrettable qui ne sera pas sans conséquences. Il affirme aussi que Bruno Retailleau, son collègue ministre de l'Intérieur, n'avait, je cite, rien à voir dans cette affaire. Le Soudan entre aujourd'hui 15 avril dans sa 3e année de guerre. Le 15 avril 2023, les tensions entre les généraux Al-Burhan et Hemeti éclatent ouvertement après 6 mois de conflit larvé autour du partage du pouvoir et de la reformation de l'armée régulière. Résultat aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes sont mortes. Des soupçons de massacres ethniques planent autour de ces 24 mois de conflit, une guerre qui a poussé aussi 13 millions de Soudanais hors de chez eux, dont près de 4 millions en dehors des frontières. Le Tchad en accueille près d'un quart à lui tout seul, qui arrive essentiellement via le point de passage d'Adré. Notre envoyé spécial sur place, Nadia Ben Mafoud, rencontre des populations exsangues, essorées par ce qu'elles ont traversé.
Assise par terre, prostrée, regard dans le vide, Zinab vient tout juste d'arriver.
Je suis fatiguée, j'ai des douleurs partout sur le corps, mais j'ai surtout mal aux yeux à cause de la poussière et du vent sur la route.
Zinab a 34 ans, elle est mère de 4 enfants, et pour ce premier voyage au Tchad, elle a dû faire la traversée seule.
J'ai laissé 2 de mes enfants là-bas, à Zalingué. Si j'arrive à rassembler l'argent, je pourrai les faire venir.
Narmat et ses enfants viennent de fouler le sol tchadien, ils attendent d'être enregistrés. Pour son long périple depuis Niala, dans le sud du Darfour, elle a dû travailler de longs mois avant de rassembler la somme nécessaire.
J'ai travaillé, j'ai été casseuse de pierre, j'ai vendu des oignons, j'ai travaillé dans les champs aussi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour récolter l'argent. On a pu acheter quelques petites choses à manger, payer le chauffeur et monter dans la voiture. Ça a coûté 75 000 rials par personne. Le total aurait pu nous faire vivre pendant 2 mois.
La jeune femme a encore du mal à raconter ce qu'elle a vu sur la route.
On arrête les hommes, on leur enlève leur argent, mais ils laissent passer les femmes et les enfants. Les hommes sont traités très durement. Certains sont mis en prison, d'autres voient leur argent et leur nourriture confisquée. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent.
Les organismes chargés d'accueillir les réfugiés notent une baisse des arrivées ces derniers mois, mais avec le durcissement des combats à El Fasher, ils craignent une recrudescence prochainement. Nadia Ben Mahfoud, Adré et RFI.
Vos questions aussi autour de ce conflit, de cette guerre au Soudan, dans une première partie spéciale d'Appel sur l'actualité. Avec Juan Gomez et ses invités, tout cela dans une demi-heure sur cette antenne. Une ressortissante suisso-nigérienne enlevée avant-hier soir à Agadez, dans le nord du Niger. Donc le gouverneur de la région l'a confirmé hier matin. Le ministère suisse des Affaires étrangères affirmant que sa représentation à Niamey était en contact avec les autorités locales. Magali Lagrange, que sait-on sur cet enlèvement ?
L'enlèvement d'une étrangère du nom de Claudia, de nationalité suisse, a été confirmé hier par le gouverneur de la région. Il s'est produit dimanche soir, selon lui, à son domicile d'Agadez. Hier, le Conseil régional de sécurité s'est d'ailleurs réuni pour analyser la situation et pour envisager les actions à prendre pour comprendre ce qui s'est passé. Selon des sources locales et des articles de presse, Claudia Apt, 67 ans, s'est mariée à un Nigérien. Elle était installée depuis plusieurs années à Agadez, où elle a créé une association pour aider les artisans. En début d'année, c'est une ressortissante autrichienne qui a été enlevée dans des conditions similaires dans la même ville. Eva Gretzmacher, 73 ans, y était établie depuis près de 3 décennies. Une semaine plus tard, courant janvier, 4 chauffeurs de camions marocains ont disparu, cette fois près de la ville de Terra, dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Aucun de ces enlèvements n'a été revendiqué, mais les regards se tournent vers l'EIS, le groupe État islamique au Sahel, notamment actif dans le nord du Mali. Jusqu'en début d'année, aucun occidental n'avait été enlevé dans la région d'Agadez depuis 15 ans.
Magali Lagrange, il est 8h, bientôt 37 à Niamey, une heure de moins à Dakar, le Sénégal, où le Premier ministre se prêtait une fois encore à l'exercice des questions-réponses hier avec le Parlement. Ousmane Sonko face aux députés, pour la deuxième fois depuis les élections législatives de novembre, face aux députés, sauf une grande partie de ceux de l'opposition. 26 des 35 élus ont boycotté cette séance. Cela n'a pas empêché 2 heures d'échange entre le chef du gouvernement et le pouvoir législatif, 2h30 d'ailleurs, alternant entre la carotte et le bâton. Léa Lisa Vesteroff.
Interpellé par un député de l'opposition sur le respect de la liberté d'expression, Ousmane Sonko s'est montré très ferme, voire menaçant.
Certains veulent déstabiliser le Sénégal pour dire qu'on a des problèmes. J'annonce aux Sénégalais que désormais la politique pénale, c'est zéro tolérance en la matière. La diffusion de fausses nouvelles, c'est zéro tolérance.
Que chacun assume.
Message à peine voilé en direction de l'opposition en l'appelant à arrêter les attaques personnelles. Sur les finances publiques, le Premier ministre s'est voulu rassurant par contre sur la capacité du Sénégal à faire revenir de l'argent dans les caisses de l'État en toute souveraineté via la fin des exonérations aux entreprises étrangères par exemple, mais aussi l'impôt.
Il faut payer l'impôt à des taux acceptables mais avec une assiette élargie. La souveraineté a un coût. Il faut résoudre le problème des niches fiscales et des mauvaises pratiques fiscales.
Ousmane Sonko qui a également promis de poursuivre la renégociation des contrats dans les domaines miniers, pétroliers et halieutiques pour augmenter la part qui revient au Sénégal. Léa Lisa Vesteroff, Dakar RFI.
On retient aussi de ces débats 4 annonces de nouvelles lois sur la bonne gouvernance, notamment une déclaration de patrimoine qui serait obligatoire pour les élus, ou encore une réforme de l'Office national de lutte contre la corruption. Moussa Dadis Camara au Maroc. L'entourage de l'ancien dirigeant guinéen confirme que le capitaine a quitté Conakry il y a de cela un peu plus de 24 heures. Direction donc le royaume chérifien pour y passer des examens médicaux. Moussa Dadis Camara, on le rappelle, gracié il y a 2 semaines par Mamadi Doumbouya, malgré sa condamnation à 20 ans de réclusion pour son rôle dans le massacre du stade du 28 septembre en 2009. RFI Conakry, Mouktarba.
À l'absence de toute annonce officielle, un proche collaborateur du capitaine Moussa Dadis Camara a confirmé à RFI son départ de Guinée. Oui, je peux vous confirmer que le capitaine Dadis a bel et bien quitté Conakry dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin pour le Maroc, a indiqué cette source. Le Maroc, un pays que Moussa Dadis connaît déjà puisqu'il y avait effectué un séjour médical au lendemain de la tentative d'assassinat le visant de la part de son ex-aide de camp Toumba Diakité. Et cette fois encore, il y va en partie pour les mêmes raisons, après plus de 2 ans passés à la prison civile de Conakry. Une détention qui a impacté son état de santé, selon son entourage. Il ne sera pas dépaysé et il va effectuer calmement des examens médicaux, a ajouté notre source. La libération du capitaine Dadis Camara avait suscité incompréhension et questionnement chez les organisations des droits humains, les parties civiles et les victimes victimes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Est-ce que Dadis Camara s'est volontairement mis au vert ou est-ce qu'il a été simplement éloigné par les autorités? Reviendra-t-il en Guinée? Autant de questions sans réponse. Mokhtar Bakonakri, RFI.
Steve Amoussou devrait être fixé sur son sort enfin dans un peu plus d'un mois. Ce ressortissant béninois enlevé au Togo, à qui la justice reproche d'être frère Unvi, cybermilitant dont les comptes publiaient des chroniques très critiques, notamment contre le président Talon. La criette le poursuit pour cyberharcèlement, diffusion de fausses informations ou encore incitation à la rébellion. Elle réclame 2 ans de prison et 1 million de francs CFA d'amende, soit un peu plus de 1500 euros. Compte rendu Jean-Luc Aplogan.
Pour le procureur, il n'y a aucun doute. Il affirme que l'intéressé en personne l'a reconnu à l'enquête préliminaire, sa sœur également. Puis il partage 2 constats. Le premier, depuis que Steve Amoussou est en détention, les chroniques se sont arrêtées. Deuxième constat, les premières déclarations d'un de ses avocats à la presse pendant sa garde à vue le désignaient comme frère Rumvi. Il lit quelques extraits des chroniques, s'indigne et les qualifie de menaces, d'insultes amplifiées par l'anonymat. La liberté de parole a des limites, le monde est ordre, il faut parler juste, recommande le magistrat, qui conclut que Steve Amoussou est coupable des 3 infractions. Les avocats répliquent avec véhémence, accusent le procureur de vouloir condamner sans preuve. Maître Herman Yenofon.
En matière pénale, il n'y a pas d'affirmation. Il y a des preuves, il y a des indices. Il appartient à celui qui allègue des faits d'en rapporter la preuve. Dans le cas d'espèce, on n'a pas eu de preuves, on n'a pas eu d'indices, on n'a eu que des affirmations gratuites du procureur qui doivent être balayées du revers de la main.
Maître Baparapé ironise, nous avons une belle construction intellectuelle et lyrique du procureur, mais il n'a rien prouvé. La ligne de défense sera la même pour tous les avocats, tous les conseils plaident la relaxe de leurs clients. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
À Cotonou et sur la radio du monde, il est 8h42.
Merci Edouard Dupénois, RFI, restez avec nous.